France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, c'est la marche des sciences. Les mystères du cosmos ont cette faculté de susciter l'engouement et l'émerveillement quasi enfantin de beaucoup d'entre nous et l'annonce d'une nouvelle découverte met souvent la planète médiatique en émoi. Et ce début d'année 2016, il faut bien l'avouer, ne fut pas avare de belles émotions. Le 20 janvier dernier, on apprenait que des chercheurs américains, sur la base d'une démonstration mathématique, avaient annoncé l'existence d'une neuvième planète située aux confins de notre système solaire. Et le 11 février, c'est la détection d'ondes gravitationnelles qui réjouissait la communauté des scientifiques et des fans d'astronomie. L'astronomie, cette science ancienne qui n'a de cesse de nous interroger sur les origines de notre univers. Alors pour nous, c'est une belle occasion de remonter le temps de cette astronomie, des Babyloniens jusqu'à aujourd'hui, en direct sur France Culture, et en compagnie de Jean Audouze, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, et auteur avec Johan Kicken du livre intitulé « Les secrets du cosmos », paru chez Vuibert, une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA, grâce à Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission, vers 16h45, dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Pour la Science, dont le dernier numéro fait d'ailleurs sa une sur cette neuvième planète, dite planète X, eh bien nous découvrirons un de ces personnages oubliés de l'histoire du ciel. John Wilkins, l'avocat du peuple de la Lune, pour reprendre le titre de l'article proposé par Claire Bouir. Elle est docteure en épistémologie et histoire des sciences à l'Université de Bordeaux. Mais tout de suite, partons à la découverte des secrets du cosmos.
Attention, c'est bref, 0,2 dixième de seconde. Ce que vous venez d'entendre, c'est la collision suivie de la fusion de deux trous noirs dans l'univers à 1 milliard d'années-lumière de nous. Le résultat de ce choc cataclysmique a beau faire 62 fois la masse du Soleil, autrement dit dégager une énergie colossale, à l'arrivée sur Terre c'est à peine audible. Eh bien c'est justement ce qui explique pourquoi il a fallu 100 ans pour mettre en évidence la prédiction d'Albert Einstein, les ondes gravitationnelles existent bel et bien. Mais la déformation de l'espace qu'elles provoquent est à peine perceptible pour nous terriens. Longtemps les détecteurs n'ont pas été assez sensibles pour mesurer cette minuscule déformation de l'espace. Il a fallu la toute dernière mise à niveau des machines pour y parvenir. C'est en l'occurrence un détecteur américain qui a vu ce premier événement, mais d'ici la fin de l'année, Virgo, son alter ego franco-italien implanté à Pise, devrait enregistrer lui aussi ses premières ondes gravitationnelles. Pour les astrophysiciens, cette découverte ouvre la voie à de nouveaux objets célestes, car jusqu'ici, les trous noirs, par exemple, résistaient aux télescopes classiques. Par définition, ils n'émettent pas de lumière, on les connaissait donc très mal. Désormais, grâce aux ondes gravitationnelles, ils deviennent accessibles.
Bonjour Jean Audouze.
Bonjour Aurélie Luneau.
Alors c'était le 11 février dernier, un sujet de Sophie Bécherel sur France Inter, et donc avec cette information qui a mis, on peut le dire, en émoi, en ébullition, hein, le monde des spécialistes, mais l'ensemble des aficionados, j'allais dire, mais des fans de l'astronomie, ces ondes gravitationnelles. Alors il faut peut-être juste rappeler avant d'en parler, Jean Audouze, parce que je sais que pour cet événement vous étiez aussi sur la sellette et sollicité, la première détection indirecte réalisé par deux astrophysiciens américains se déroule en 1974, hein, c'est oui, ça. C'est... Joseph Taylor et son étudiant Russell Hulse.
Oui, qui ont eu le prix Nobel juste après.
Ah oui, en plus, en 1993.
Ils ont vu les effets de marée d'un couple d'étoiles à neutrons, de pulsars comme on dit. Mmh. Et en calculant justement ces effets de marée, ils en ont déduit que nécessairement il y avait une émission d'ondes gravitationnelles. beaucoup plus ténue d'ailleurs que celle que l'on a pu voir aujourd'hui,
mais oui,
enfin, il y a quelques mois.
Exactement. Alors donc ces ondes gravitationnelles, en tout cas, c'est vrai que l'univers nous réserve encore bien des surprises, mais surtout nous avons une réelle méconnaissance. Hein.
Oui, oui. Mais enfin, on a la chance, je dirais, de ces 10 ou 50 dernières années, de voir le paysage de l'univers bouleversé complètement grâce au fait que non seulement toutes les longueurs d'ondes électromagnétiques, enfin je veux dire la lumière, on a toutes les lumières possibles et imaginables, depuis la radio jusqu'au rayon gamma en passant évidemment par le visible, mais également on observe des particules, par exemple la découverte du boson de Higgs par le grand collisionneur de Genève, eh bien ça a des implications d'astrophysique. Et d'autre part, on observe effectivement ces ondes gravitationnelles. Mmh. Donc c'est un peu comme on peut se revenir à Galilée. Quand Galilée a pointé sa lunette sur la Lune et puis sur les satellites de Jupiter, d'une certaine façon, cette découverte des premières ondes gravitationnelles de deux trous noirs, eh bien, c'est à peu près, on est dans le même état d'esprit, si vous voulez.
Alors, avec ce livre, Les secrets du cosmos, Jean Oudouze, vous remontez bien plus loin que Galilée. Vous remontez même aux Égyptiens, mais en même temps, dans cette longue traversée historique, vous dites bien, aux Égyptiens, on ne doit quasiment rien.
Enfin, on doit quand même le calendrier et la division du jour en 24 heures, 12 heures la nuit et 12 heures le jour. C'est pas si mal.
Oui.
Mais c'est vrai que.
Mais moins que ce que l'on ne croit, d'ordinaire.
Oui. Mais les grands inventeurs, ceux qui, même les plus anciens, en tout cas dans notre monde, je ne parle pas des Chinois,
oui,
qui étaient très actifs à peu près au même époque,
oui,
mais ce sont les Babyloniens. Les Babyloniens, ils avaient une vision très arithmétique, ils comptaient. Ce n'est pas comme les Grecs qui vont être des géomètres, c'est-à-dire qu'ils vont calculer les positions, etc. Eux, c'était plutôt des arithméticiens et puis surtout des astrologues. On peut dire que malgré tout, l'astrologie a payé son tribut à l'astronomie, puisque à cette époque-là, les astronomes babyloniens étaient aussi des astrologues.
Alors, l'astronomie, on peut le dire, donc Jean Oudouze est né en Mésopotamie. Alors, grâce à un travail de copie aussi, de traduction, d'interprétation et de publication des tablettes babyloniennes, on sait aujourd'hui que le niveau des savants de l'époque était très élevé en matière d'astronomie, donc sous la dynastie des Séleucides. Donc je rappelle peut-être pour dire 306 jusqu'à 64 avant notre ère, et avec de premières traces qui remonteraient même au XVIIIe siècle avant notre ère.
Tout à fait. Ils avaient compilé les constellations, enfin pas toutes. Ils avaient aussi listé les éclipses. Et puis repérer bien sûr qu'il y avait 5 objets, enfin sans compter évidemment le Soleil et la Lune, mais qu'il y avait des objets particuliers dans le ciel que les Grecs vont appeler planètes, c'est-à-dire astres errants. Mais ça, ils l'avaient déjà repéré presque 4000 ans maintenant depuis que nous parlons. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable.
Alors, il faut bien préciser, donc c'est vrai, les bases de nos connaissances de l'univers ont donc été posées par les astronomes grecs. On va parler de Ptolémée dans un instant, mais je vous propose d'écouter un premier document sonore trouvé dans les archives de l'INA par Anaï Morales. C'est au sujet de Ératosthène, et celui qui nous en parle, c'est donc l'écrivain et historien des mathématiques Denis Gedge, parce que c'était le 9 février 2003.
Pour à peu près tous les savants hellènes, la Terre est ronde. Donc, comment faire pour mesurer la Terre, puisqu'elle est ronde? Eh bien, il faut prendre ce qu'on appelle un grand cercle, c'est-à-dire un cercle qui passe, c'est-à-dire le tour de la Terre. Et là, interviennent les méridiens. Qu'est-ce qu'un méridien? C'est un grand cercle qui passe par les pôles. Et comment est-ce qu'on sait qu'il passe par les pôles? En étant nord-sud. Si je sais déterminer la longueur d'un petit morceau de méridien, et si en plus je sais la latitude des deux extrémités, je connais le tour de la Terre. Combien grande est la Terre? Eh bien, deuxième chance extraordinaire, en Égypte, le Nil est dirigé nord-sud. Donc le Nil suit le cours d'un méridien. Il suffit de mesurer une partie du Nil. C'est ce qui va être fait par Ératosthène et une expédition qui va partir d'Alexandrie, c'est-à-dire la mer, jusque à Assouan, la première cataracte. Comment vont-ils mesurer? Eh bien, croyez-le ou pas, pas à pas. C'est-à-dire que va intervenir ce qu'on appelle un bématiste, un compteur de pas. Et les résultats sont étonnamment précis. Quelques pourcents d'erreur par rapport à la mesure exacte d'aujourd'hui.
Alors Jean XII, alors comme le disait Denis Guedge en février 2003, donc finalement les Grecs furent des arpenteurs du ciel.
Oui, c'est ça. Enfin, alors il y a Ératosthène bien sûr qui a mesuré la circonférence de la Terre, donc ils savaient, les Grecs savaient que la Terre était ronde. Ensuite, il y a eu Hipparque qui a mesuré la distance Lune-Terre et Terre-Soleil, il s'est un peu trompé, mais enfin, c'est un peu l'un des inventeurs de la trigonométrie, oui. C'est-à-dire de se servir des angles. Et puis vous avez ensuite, un peu plus tard, au 1er siècle de notre ère, Ptolémée, qui a construit une théorie pour représenter le mouvement des planètes autour de la Terre, évidemment, puisque on était géocentrique à l'époque, mais qui a duré. Il faut voir que cette théorie, qui va être évidemment balayée par Copernic, Galilée et les autres,
oui.
Eh bien, elle a quand même duré 15 siècles. Pendant 15 siècles,
on a cru que la Terre était au centre de l'univers.
Et c'était assez intelligent parce que, au lieu de mettre le centre du mouvement, de le mettre sur la Terre, et il avait décalé, et donc il y avait cette théorie des épicycles extrêmement ingénieuse, où il y avait donc le mouvement de deux cercles, un grand cercle, et puis sur lequel se déroule un petit cercle qu'on appelait le déferent, et donc qui reproduisait très, très précisément le mouvement des planètes autour de la Terre.
Et alors, il faut quand même préciser effectivement que c'est extraordinaire leur connaissance, parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient quand même peu d'outils d'optique à l'époque,
oui. Hein,
bien évidemment. Et puis, autre information que vous nous donnez dans ce livre, Jean XII, vous nous dites que tout de même, il y a le problème de la perte des textes d'origine de Ptolémée. On ne sait pas vraiment si on travaille sur les bons textes.
Ben oui, tout à fait. Hein. On ne sait pas. Non, c'est vrai. Et donc, mais enfin, ce qui nous est parvenu est quand même assez extraordinaire. On essaye de décrire justement ces différents livres, et c'est vrai que c'est tout à fait impressionnant, avec les connaissances de l'époque, le fait que, eh bien, il n'y avait pas du tout d'instruments, ils avaient juste les yeux pour regarder, et donc ils avaient des règles, ils pointaient certaines règles, ils avaient un gnomon, c'est-à-dire un fil à plomb de fait, et avec ça, ils sont arrivés quand même à comprendre les mouvements, peut-être de façon erronée, mais
l'articulation de l'univers.
Mais c'était quand même, il y avait une certaine, une certaine logique. Et je pense que de ce point de vue-là, cette astronomie mérite les éloges.
Alors vous parliez de Copernic, hein, en disant qu'on lui devait l'héliocentrisme. Alors c'est vrai, mais en même temps, toujours dans votre livre, vous révélez quand même qu'il y a un Grec, Aristarque de Samos, qui au 3e siècle avant Jésus-Christ a émis l'idée de l'héliocentrisme. Donc lui, il a placé le Soleil au centre du cosmos, il a fait tourner la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Donc c'était assez extraordinaire.
Ah oui, tout à fait, c'est extraordinaire. Alors le problème d'Aristarque de Samos, c'est que de fait, alors il a émis cette idée, puis il l'a... Enfin, il l'a pas poursuivi, à la différence de Copernic, qui évidemment n'est pas le premier à l'avoir proposé, mais qui lui au moins, pendant toute sa vie, disons, sa vie d'astronome, a poursuivi cette idée. Et il faut voir que le système copernicien n'est pas un système simple, hein, c'est un système très complexe.
Philosophique, dites-vous d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui,
plus philosophique que scientifique.
Oui, tout à fait, parce que ce n'était pas un bon astronome. Il n'est pas... On n'a pas, contrairement à même Hipparque ou tous ces gens-là, il a peu observé... Il a conçu un joli système, et en tout cas, on lui doit la... Oui, on lui doit le fait que de déplacer le centre de l'univers, de la Terre, au Soleil.
Alors, place de la science arabe, parce qu'elle prend la suite finalement de ses avancées intellectuelles.
Alors, elle se situe, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, elle se situe entre Ptolémée et Copernic.
Oui, bien sûr.
Alors, les Arabes, c'est formidable, hein, c'est-à-dire que... Et puis il y a cet apogée au 8e siècle de notre ère avec Harun al-Rachid, que condamné par les condamnés une nuit, mais c'est un roi savant qui a encouragé la culture à tout, dans tous les domaines. Et évidemment, on a eu des très grands astronomes qui ont conçu, d'abord repris les travaux des Grecs, et puis on leur doit beaucoup de tables, des tables de position d'étoiles.
Des instruments, hein, comme l'astrolabe.
Oui, tout, l'astrolabe, voilà. Par ça, exemple. C'est un des savants. Et alors, il a un nom un peu compliqué. Il s'appelle Al-Zarqali. Alors, lui, il était localisé en Andalousie, hein, parce qu'il faut voir que la civilisation arabe, elle est depuis l'Espagne d'un côté jusqu'à Samarcande de l'autre. Hein. C'est c'est pratiquement, à l'exception d'une bande occidentale, c'était quasiment pratiquement le monde de l'époque. Et de fait, il faut pas faire de contresens. Hein, tout le monde n'était pas musulman. Hein, c'était la langue arabe qui était le vecteur, mais il y avait des juifs, il y avait des chrétiens.
Mais c'est bien de le rappeler, effectivement.
Tout ça, et il y avait une certaine. D'ailleurs, on peut dire qu'à cette époque-là, il y avait une bonne entente entre les différentes communautés.
Le multiculturalisme fonctionnait.
Et ça se passait très très bien. Et donc,
c'est pour ça d'ailleurs que cette science arabe finalement s'est inspirée et a fait une synthèse, hein, on peut dire, des idées et des méthodes des astronomies hellénistiques, indiennes, perses,
oui,
grecques.
Oui, tout à fait, exactement. Ben, on lui doit de nous avoir transmis, ce sont les Indiens qui ont découvert le zéro, mais enfin ce sont les Arabes, la numérotation arabe, c'est quand même à eux qu'on doit le fait de plus utiliser les chiffres romains. On serait bien incapable de faire des divisions avec les chiffres romains. Enfin, et donc, ça paraît idiot, l'invention du zéro. Mais l'invention du zéro, c'est l'émergence des mathématiques modernes, hein, juste pour ça. Et l'algèbre est arabe. Le développement de la trigonométrie est grecque, mais elle a été développée par les Arabes. Et que ce soit, enfin, en astronomie, c'est clair, il y a bien d'autres domaines dans lesquels ils ont excellé, la médecine, la biologie, la chimie. Alchimie, c'est un mot arabe, voilà l'origine. Donc, moi, je suis très admiratif de cette grande civilisation. Toute une grande partie des termes qu'on utilise en astronomie, Aldébaran, Bételgeuse, tout ça, Zénith, Nadir, tout ça, ça vient de la civilisation arabe.
Alors, petite question, hein, que Emmanuel Morse-Duncan, derrière la console me souffle, mais je suis sûr qu'elle se fait l'interprète de nos auditeurs. C'est vrai, le zéro date de quand?
Le zéro, il date, à mon avis, avant l'émergence de la civilisation arabe. Je pense qu'il doit naître au 4e ou 5e siècle chez les Indiens. Et après, il est transmis par les Arabes au monde occidental.
D'accord. Alors, donc, on comprend avec tout ça, Jean XII, que l'astronomie est fille du temps. Et alors, il faut quand même rappeler, parce qu'on a le sentiment que cette histoire s'est peut-être perdue, on la ressort comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que le bond que le XXe siècle fera en avant, on en parlera dans un instant, a certainement balayé un petit peu des histoires anciennes. Mais les noms de ces pionniers ont pu être donnés à des cratères, à des cirques.
Bien sûr,
on en garde encore la trace.
Oui, hein. Bien sûr, on essaye, dans la mesure du possible, de payer notre tribu, que ce soit par les noms de, enfin, les planètes, c'est évident, c'est la mythologie, mais il y a les noms des cratères, de la Lune, les noms maintenant des accidents aussi, puisqu'on découvre, vous savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, les progrès qu'on a fait dans la connaissance des planètes. Alors il y a des noms de baptême à nombreux, et on n'oublie pas tous ces astronomes,
tous ces pionniers
du Moyen-Âge et d'après, bien sûr.
Alors, il y a le temps des premiers instruments et de la position des astres, donc l'œil et le cerveau. On en prend un petit peu le goût, un avant-goût, avec cet extrait d'archives des fonds de l'INA. Il s'agit de l'extrait du téléfilm de Jean-Daniel Véretch, diffusé en 2006 sur France 3, et intitulé « Galilée ou l'amour de Dieu ».
Vous avez raison, Galilée.
C'est un satellite de Jupiter, Éminence.
Jupiter a un satellite?
Oui.
Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine, c'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu.
Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre.
En effet.
Ses couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. Deux satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile.
En réalité, Éminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter. Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents.
Quatre satellites autour de Jupiter.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alors Jean XII, je ne sais pas si vous avez reconnu les voix d'ailleurs. Les Galilées étaient campés par Claude Riche.
Oui.
Le pape Urbain VIII, c'était Jean-Pierre Marielle.
Oui.
Et puis le cardinal Robert Bellarmine, Pierre Vernier. Alors là, bien sûr, c'est Galilée, mais avant Galilée, il y a eu Giordano Bruno, Tycho Brahe, Kepler, et puis Galilée. Enfin, tout ça, c'est quand même sur une...
Sur une courte période.
Oui, sur une courte période.
Enfin, on dit que Tycho Brahe est le dernier grand astronome avant l'invention ou la mise de la lunette astronomique.
Oui.
Et ensuite, vous avez donc Galilée qui utilise la lunette astronomique, mais c'est Kepler qui en comprend l'optique, et c'est aussi Kepler qui va découvrir les lois de la rotation des planètes autour du Soleil.
Donc tous ces géants de l'astronomie, c'est du 16e, 17e siècle. Copernic, c'était le 15e.
Copernic, c'est fin du 15e, c'est le 16e.
C'est le 16e.
La fin du 16e, c'est Tycho Brahe. Et le début du 17e, c'est Kepler et Galilée. Et puis ensuite, vous allez avoir donc l'observatoire de Paris, l'observatoire de Greenwich, la génération des Cassini. Vous allez avoir Huygens. Mm. Et puis on va arriver très vite à Newton, qui a inventé un des télescopes, et puis qui a eu la chance de travailler avec Halley, qui a donc découvert
qui est
l'une des grandes preuves avec le mouvement keplérien des planètes, la preuve de la théorie de la gravitation universelle. Hein, il faut savoir que Newton, en fait, son trait de génie, c'est de dire que le mouvement de la chute d'une pomme, c'est équivalent au mouvement des planètes autour du Soleil.
Donc à partir de là, en tout cas, on est dans l'héliocentrisme. Hein. D'ailleurs, l'héliocentrisme avec Nicolas Copernic. Il ne fut pas inquiété, d'ailleurs, lui, par l'Église de son vivant, par rapport à Giordano Bruno qui a été brûlé en 1600.
Parce qu'il il proclamait qu'il y avait une infinité de mondes.
Oui.
Et ça ne plaisait pas à l'Église.
Et Galilée, qui avait pu se sauver, en tout cas sauver sa peau, si je puis dire, un temps, mais qui lui-même, à un moment, a été contraint à l'enfermement chez lui.
Oui, mais il faut dire qu'il a été... Enfin, c'est une longue histoire.
Oui.
On passerait une émission à décortiquer...
Mais le poids de l'Église par rapport à ses connaissances de la science. Mais, et les préoccupations de cette époque-là aussi, Jean XII, c'est quoi? C'est calculer la distance de la Terre au Soleil, la distance avec les
Bien
autres
sûr.
Planètes, découvrir des planètes nouvelles par le calcul mathématique.
Et puis, c'est aussi... Il faut voir que Galilée n'a pas seulement proclamé les théories coperniciennes, mais il a montré... En observant justement les quatre satellites de Jupiter, que Jupiter c'était un petit système solaire. Or, en faisant cela, et ensuite avec tous ses travaux sur la chute des corps, il a détruit la vision aristotélicienne de l'univers. C'est-à-dire que Aristote pensait qu'il y avait un monde sublunaire, imparfait, matériel, puis un monde supralunaire, au contraire spirituel, dans lequel la physique était différente. Alors que Galilée montre que la surface de la Lune, c'est équivalent à la surface du sol de terrestre, toute proportion gardée. Et puis, il démontre aussi que autour de Jupiter, il y a un système solaire. Donc, la vision aristotélicienne du monde est battu en brèche par Galilée.
Oui.
Je crois que c'est ça l'important.
Alors là, c'était le temps, on peut dire, de ces hommes qui ont travaillé avec l'œil et le cerveau, avec les premiers instruments, mais il y a le temps véritablement des techniques. On bascule dans ce temps à partir de quand
c'est, moi, je le situe au début du 19e siècle. Il y a deux inventions majeures. Une invention, évidemment, c'est la photographie, qui permet aux astronomes de conserver les clichés, leurs observations. Et puis surtout, l'invention par les Allemands Kirchhoff et Bunsen, ce fameux bec Bunsen de nos salles de classe, eh bien, on invente donc là ce qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire que en étalant la lumière visible par un prisme ou par un réseau, en faisant finalement des arcs-en-ciel, eh bien, on arrive à mesurer, à détecter la composition chimique du gaz. Alors de la surface d'une étoile ou bien du gaz qui se trouve entre une étoile et nous, etc. Et donc, à partir de là, jusqu'à cette époque, 1850 à peu près, c'est surtout de la mécanique céleste. Hein. On observe les mouvements des astres.
On calcule les masses aussi.
On calcule les masses. On fait, Le Verrier découvre Neptune à partir des irrégularités du mouvement d'Uranus. Mais là, à partir de ce moment-là, on essaye de comprendre la physique des astres, des étoiles, des galaxies, etc. Alors les galaxies, il faut voir que le concept de galaxie avait été imaginé par le philosophe Kant. Il a commencé sa carrière en étant astronome, mais la véritable démonstration de ces corps lointains hors de notre Voie lactée, ça date des années 1914 avec Chapelet, Schlieffer et puis évidemment Hubble, qui ont donc démontré que notre galaxie n'en est qu'une parmi des milliards de galaxies qui constituent l'univers observable.
Et puis voilà, on entre de plein pied dans ce 20e siècle, bond en avant, donc les travaux d'Edwin Hubble, les travaux d'Albert Einstein, de Georges Lemaître, la découverte de l'expansion de l'univers, l'analyse des différents rayonnements, les ondes radio. Je vous propose d'écouter justement un document sonore. C'est le son d'un pulsar. Voilà, on va en profiter quelques instants. Donc ce pulsar qu'on a retrouvé dans une émission Perspectives scientifiques du 10 décembre 1993, qui a été identifié bien avant. Rappelez-nous, c'est quoi un pulsar ?
Alors les pulsars, on les connaît. Disons, on a déterminé la nature physique des pulsars en 1967. Alors pendant 2-3 mois, eh bien, on imaginait, enfin, il y a eu l'hypothèse un peu folle que c'était peut-être les petits hommes verts qui nous parlaient. Finalement,
c'était l'époque aussi. On recherchait les ovnis.
Tout à fait. Bon, on continue à chercher les petits hommes verts. Mais en tout cas, c'est Jocelyn Bell et Anthony Wish qui, utilisant les radiotélescopes de Cambridge, ont découvert donc que ces pulsars sont assimilables à ce qui reste d'une explosion d'étoiles. Lorsqu'une étoile massive explose, il y a un résidu. Ce résidu est très très dense, c'est-à-dire c'est un énorme noyau finalement, qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est-à-dire, alors imaginez que le Soleil, au lieu d'avoir un diamètre de 700 000 km, il n'en est plus qu'un de 3 à 10 km, eh bien, le Soleil serait un pulsar. Alors, du fait qu'il tourne très rapidement sur lui-même, du fait de sa contraction, eh bien, il donne ce son extrêmement régulier.
À capter comment, de quelle manière, avec des télescopes spécifiques, des satellites.
Avec les rays 21 sur toutes les longueurs d'onde. D'accord. Donc c'est avec des radiotélescopes classiques. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un bon pouvoir séparateur, c'est-à-dire qu'on utilise une technique que Jewish travaillait avec quelqu'un qui s'appelait Ryle, qui avait inventé l'interférométrie, c'est-à-dire pour les radiotélescopes. Enfin, l'interférométrie, c'est pas lui qui l'avait inventé, mais à l'application, et ça donnait un pouvoir séparateur important au radiotélescope. Et c'est vrai que la découverte des pulsars a été une très très grande découverte. D'ailleurs, qui a valu, on le raconte dans le livre, Jewish a eu le prix Nobel qu'il aurait dû partager avec son étudiante, Jocelyn Bell. Alors, elle a été récompensée par ailleurs parce qu'elle a été anoblie par la reine. Mmh. Mais enfin, il y a eu, il y a eu du chauvinisme, mal chauvinisme de la part du comité Nobel contre Jocelyn Bell, qui est vraiment la découvreuse des pulsars.
Vous voyez, il n'y a pas longtemps, c'était la journée des droits des femmes, mais c'est vrai que dans l'histoire, on retrouve ces cas spécifiques. Et souvent d'ailleurs, quand il y a des Nobel à la clé, on a eu l'occasion dans la marche des sciences de revenir sur certaines de ces histoires. En tout cas, à ce stade de l'émission, Jean Audouze, il est 16h30, c'est votre choix musical. Et alors, vous nous avez proposé pour illustrer de belle manière ce thème des secrets du cosmos, une chanson des Beatles.
Les Beatles, il y a plusieurs chansons. J'aurais pu en prendre une autre qui est assez en mécanique quantique, L'homme de nulle part. Et celle-là, il y a le terme de l'univers. Donc, c'est vrai que j'ai pensé que ce serait un joli clin d'œil.
Et puis aussi clin d'œil au producteur George Martin, qui est mort mardi, d'ailleurs, à l'âge de 90 ans, pourquoi pas. Et donc, cette chanson, c'est Across the Universe.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe.
Les Beatles, Across the Universe, et c'est le choix de notre invité Jean Audouze aujourd'hui dans la marche des sciences en direct. Et donc Jean Audouze, je le rappelle, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur avec Johan Kicken du livre Les secrets du cosmos, un livre paru chez Vuibert, une plongée dans cette aventure humaine et technologique de l'exploration de l'univers. Alors Jean Audouze, on peut dire qu'au cours des 50 dernières années, vous avez vu et vécu les trois quarts des découvertes. Ce 20e siècle, comme je le disais, c'est un énorme bond en avant. Mais ce qui est toujours aussi fabuleux dans cette histoire de l'exploration création de l'univers, c'est quand même de voir de quelle façon est-ce qu'il y a des esprits, des cerveaux, des savants qui avaient senti, qui avaient perçu, qui avaient imaginé les choses bien avant. Et au XXe siècle, on découvre, ne serait-ce que les ondes gravitationnelles, voilà, annoncées le 11 février, c'est, Einstein avait senti ça dès le début du XXe siècle. Je reprends une autre, l'étude des trous noirs. L'hypothèse de leur existence avait été émise dès 1783 par l'anglais John Mitchell, reprise par Pierre Simon de Laplace en 1796, et le premier trou noir détecté grâce à un satellite le fut en 1971.
Oui, tout à fait. Eh bien, on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, juste un... Vous savez qu'en 1987, il y a eu une supernova qui a éclaté dans le grand nuage de Magellan, la supernova magellanique. Eh bien, les modèles qu'avaient construits des gens comme Colgate, William Fowler, Fred Hoyle et un tas de gens, eh bien, ils ont été absolument vérifiés par l'explosion de cette supernova. Donc, alors évidemment, le mérite absolu, c'est évidemment Einstein. C'était assez émouvant, d'ailleurs, le 11 février de cette année, de voir que pendant... Il y a eu un énorme pari qui a été accompli par les agences de financement, la NSF, l'Agence spatiale européenne, enfin les CNRS français, italiens, etc. Et on arrive, et pendant... Il faut voir que ces opérations, il faut... 30 ans, il a fallu une trentaine d'années pour construire les deux accélérateurs, les deux détecteurs américains, l'un en Louisiane et l'autre à l'état de Washington. Et puis, ils marchent. Et ça, c'est fabuleux. Moi, je trouve que ce qui est beau dans cette histoire, c'est véritablement que l'esprit humain peut être capable de temps en temps de prouesses absolument considérables.
Et puis vive la technique quand même, parce que effectivement les télescopes, on pense à Hubble hein, qui fonctionne depuis 22 ans, qui sera remplacé entre 2018 et 2020, je crois, par James Webb Space Telescope.
Alors il sera remplacé par le télescope de Hubble a un diamètre de 2,4 mètres, il va passer à 6 mètres et surtout il va travailler davantage sur l'infrarouge. Le James Webb télescope sera plus orienté vers l'infrarouge, alors que le télescope Hubble, c'était surtout sur le visible, un peu l'ultraviolet et à la marge de l'infrarouge. Donc on espère évidemment des... Alors c'est ça qui est fabuleux, je pense, pourquoi ces 50 dernières années ont été aussi prometteuses, c'est parce qu'il y a eu la technique. Il y a eu deux choses. Une part, des instruments de plus en plus gros, perfectionnés, maintenant,
les radiotélescopes, les détecteurs à neutrinos qu'on trouve sous terre, sous les mers, sous les pôles, enfin, tout s'accélère.
Et puis la deuxième chose, faut pas oublier
le temps des explorations.
Ah oui. L'informatique.
Je pensais aux explorations spatiales.
Mais oui, l'informatique. Et puis le spatial,
c'est lié,
bien
de toute
sûr.
Façon, tout est lié.
Mais tout ça. Donc, le spatial, les technologies qui ont, il faut voir que, par exemple, aujourd'hui, moi j'aime bien citer ça, les astronomes ont été utile dans le développement de ce qu'on appelle les caméras CCD, qui maintenant il y en a sur tous nos téléphones portables. Et au début, ça a été un instrument que seuls les astronomes utilisaient, et avec une coopération entre les industriels et les astronomes, on a réussi à en faire un produit qui est maintenant dans toutes les poches et à tous les... Et donc, oui, on a toujours trop tendance à dire ça sert à quoi l'astronomie ? Alors évidemment, ça sert à répondre aux grandes questions, mais quelquefois, ça sert de faire ça des applications très concrètes.
Allez, autre plongée sonore, c'était le 23 août 1989, Voyageur 2 passait à proximité de Neptune, reportage de Jacques Tizioux.
Ce n'est pas sans une certaine fierté que Bradford Smith, le patron de l'équipe chargée d'interpréter les photos spectaculaires, nous a annoncé qu'il y avait bien au moins un anneau complet autour de Neptune. Les photos en fausse couleur nous montrent maintenant des cirrus roses de la taille de l'Europe au-dessus d'une tache brune et bleue de la taille de la Terre. Voyager 2 découvre Neptune et pourtant, après 7 milliards de kilomètres en 12 ans, la sonde interplanétaire est en mauvaise santé. Après de fortes doses de radiation, d'innombrables impacts de micrométéorites et des pannes de toutes sortes, crises cardiaques et cérébrales. C'est un véritable miracle qu'ont accompli les chirurgiens du Jet Propulsion Laboratory pour que Voyager 2 puisse nous fournir encore tant d'informations et des photos d'aussi bonne qualité d'une planète mille fois plus sombre que la Terre. Depuis qu'elle a survolé Saturne il y a 8 ans, la sonde ne peut plus tourner ses caméras qu'autour d'un seul axe et à raison d'un dixième de degré par seconde seulement. Depuis qu'elle a survolé Uranus il y a 3 ans et demi, elle a perdu la mémoire et les docteurs du JPL ont dû la reprogrammer. Mais elle multiplie ses informations comme si elle était encore une jeune fille et non pas une vieille dame. Jacques Tizou, France Inter, Pasadena.
Jean Audouze.
Mais ça... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est grâce à l'informatique. C'est-à-dire qu'elle était programmée Voyager 2 pour visiter uniquement Jupiter et Saturne. Et puis, en 1982...
Là, on était en 89,
oui,
là, en tout cas.
Oui, ils décident d'aller vers Uranus, puis qu'ils survolent en 86, et en 89, ils survolent Neptune. Ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai le souvenir, j'étais au JPL, justement, au mois d'août 89, où on a vu l'image, cette belle planète bleue, avec une sorte de tache bleue, un peu analogue à la grande tache rouge de Jupiter. Là aussi, c'était un grand moment de se dire que par le spatial, on arrivait à faire des prouesses considérables. Et puis ça a continué. On a parlé l'année dernière, New Horizons est arrivé au voisinage de Pluton et on a vu que Pluton, c'était un astre, malgré sa petite taille, extrêmement compliqué, avec de la glace, pas seulement de la glace d'eau, mais de la glace carbonique, etc., avec des reliefs. Sans compter évidemment Rosetta, et puis on va poser un véhicule sur un noyau.
Il y a Rosetta, Philae.
Oui, Philae. On a passé évidemment sur la sonde Cassini, puis avec Huygens qui va se poser sur Titan. Enfin, en ce moment, on est gâté, je veux dire.
Alors cette neuvième planète, Jean Audouze, qui serait au-delà de Pluton.
Elle serait au-delà de Pluton.
Alors, pourquoi on ne la voit pas, alors?
Parce qu'elle, d'abord, on ne sait pas si on la voit.
On ne sait pas. Parce que là, on suppose cette neuvième planète grâce à un calcul de mathématiques.
On fait les mêmes calculs que Le Verrier pour la détection de Neptune. C'est-à-dire que on étudie. Alors, il faut voir qu'au-delà de Pluton, il y a beaucoup de corps. On appelle ça la ceinture de Kuiper, et c'est là où on a découvert des corps de la même taille que Pluton. Eris, je vais prononcer mal, un certain nombre d'objets, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a déclassé en 2006
Pluton.
Pluton est devenu planète naine, parce que sans ça, on était obligé de multiplier le nombre de planètes. Mmh. Alors, évidemment, ça n'a pas plu aux Américains, il faut savoir, parce que Pluton était la seule planète découverte en 1930 par un Américain. Alors, les gens du Caltech, dont vous allez peut-être parler dans la suite, et ils ont fait des calculs de perturbation de trajectoire des corps au-delà de Kuiper. Donc, et ils postulent que à une distance qui serait 20 fois celle de Neptune, du Soleil à Neptune, eh bien, il y aurait une planète qui aurait à peu près la même taille que Neptune, à savoir entre 10 et 30 masses terrestres, et puis je pense, moi, que si cette théorie est, enfin, s'il y a un objet, il devrait, normalement, on devrait pouvoir le voir au moins en infrarouge. Et c'est pour ça, par exemple, que peut-être qu'on ne le verra pas tout de suite, mais avec le James Webb Space Telescope, à mon avis, il sera à la portée.
Donc, normalement mis en activité entre 2018 et 2020.
Aussi, pour qu'on parle un peu quand même de l'astronomie française, donc j'ai un collègue de l'Observatoire de Paris qui s'appelle Jacques Lascar, qui fait des calculs et qui dit, si elle existe, eh bien, voilà où il faut regarder.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la France parce qu'il nous reste une minute là pour cette première partie, Jean Audouze. Mais dans votre livre, on sent que la France n'est pas en reste hein, sur ses travaux, cette astronomie, ses découvertes. En tout cas, on aura compris aussi que tout dépend des développements technologiques à venir. Et puis, le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien sûr. Allez, en moins d'une minute, Jean Audouze, ce que vous aimeriez vivre comme découverte extraordinaire?
Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Oh ben, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la découverte de molécules biologiques partout. Je pense, moi, je pressens que des molécules biologiques, il y en a à peu près partout dans l'univers, dans les noyaux de comètes, etc. Le matériel de Mars, etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais évidemment comprendre, c'est est-ce que la théorie du Big Bang, est-ce que c'est elle tient la route depuis maintenant 1965? Hein, elle passe les. Alors, est-ce que c'est, par exemple, aujourd'hui, on a encore à prouver de façon expérimentale. Je sais que j'ai des collègues qui y travaillent, mais c'est cette théorie dite de
est-ce
l'inflation.
Est-ce qu'un jour elle ne va pas tomber, elle aussi?
Voilà.
Hein, c'est ça.
Et puis, si la dernière chose que j'aimerais voir, on parle beaucoup de matière noire et d'énergie noire. Moi, ça ne me satisfait pas parce que, je veux dire, c'est notre ignorance. Hein. Et donc, si on peut les voir, ou au moins en avoir une après, expérimentalement, je crois que ce serait bien.
Eh ben, on vous l'espère, en tout cas. Et puis, on renvoie nos auditeurs à votre livre, Jean Audouze, écrit avec Johan Kiken, Secret du cosmos, paru chez Vuibert, et deux autres références, chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Les yeux de la découverte, donc c'est pour les plus jeunes, même les familles, hein. L'astronomie, ça vient de sortir, et puis les dossiers de Pour la science, numéro de janvier-mars, intitulé Le début du système solaire. Et c'est la suite, vous restez avec nous.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec notre partenaire Pour la science et un regard jeté sur l'article publié en page Histoire des sciences. Cet article, il est signé Claire Bouir et il est intitulé John Wilkins, l'avocat du peuple de la Lune. Bonjour Claire Bouir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, donc par téléphone depuis Bordeaux. Votre article nous donne un avant-goût de votre thèse de doctorat qui portait sur le vivant dans le discours sur la pluralité des mondes. Vous êtes docteur en épistémologie et en histoire des sciences, professeur de SVT au lycée G de Beaufort et à Albert Claveil à Périgueux. Et donc, vous nous faites découvrir dans cet article un personnage qui s'appelle John Wilkins, jeune savant anglais. Mais alors, ce personnage-là, qui était-il?
Alors, c'est un savant anglais et c'est aussi un ecclésiastique. Donc, il est né en 1614. Il a fait ses études à Oxford et après, il est allé à Londres. Et c'est un auteur qui a commencé très jeune, puisque son premier ouvrage, celui que j'étudie, il l'a écrit quand il avait 24 ans. Et après, il a fait une deuxième édition, puisque ça a très bien marché, puis une troisième quand il avait 26 ans. Et donc, il a travaillé sur ce qu'on pensait de la vie ailleurs dans l'univers, et plus particulièrement sur la vie sur la Lune.
Donc, son livre qui s'intitule « La découverte d'un monde sur la Lune », c'est ça, paru en 1638, hein, quand oui. Il avait 24 ans. Et donc, un livre écrit, on imagine qu'il a fait des études brillantes, hein, parce qu'il écrit ce livre, il a à peine fini ses études. Donc, dans ce XVIIe siècle, époque, il faut peut-être le rappeler, au cours de laquelle il y a d'âpres discussions quand même, hein, au sujet de la Lune et de ses habitants, et puis tout simplement au sujet de l'univers.
Oui, alors c'est un sujet qui est très débattu et en fait il l'est depuis l'Antiquité grecque, puisque la pluralité des mondes, on s'interroge dessus, mais depuis Aristote il se posait déjà des questions dessus, les atomistes, etc. Donc en fait la pluralité des mondes, c'est ce qu'on pensait soit de la vie ailleurs dans l'univers, soit de l'existence d'autres planètes ou d'autres univers carrément qui pourraient abriter d'autres vies. Donc au XVIIe siècle, c'est assez débattu puisque c'est là où on commence à s'interroger sur ce qu'a dit Galilée. Puisque Galilée, en fait, il explique que la Terre tournerait autour du Soleil, en reprenant notamment les idées de Copernic. Alors qu'à l'époque, certains pensent encore que c'est la Terre qui est au centre.
Donc c'est le système héliocentrique hein, voilà. de Copernic et de Galilée contre les tenants du système géocentrique.
Exactement. Et donc on est en plein débat là-dessus. Et comme la Terre pourrait être une planète comme les autres, c'est-à-dire une planète qui tournerait autour du Soleil, il y a plein de savants qui se demandent si les autres planètes, du coup, pourraient être comme la Terre, donc pourraient être habitées. Et en fait, la Lune, à cette époque-là, elle est considérée comme une planète. Donc on se demande si la Lune pourrait être habitée comme la Terre.
Mais alors, sur quoi se base-t-on ? Parce que le seul moyen d'observer à cette époque-là, hein, le XVIIe siècle, les astres, c'était quoi ? C'était la lunette astronomique et on n'avait pas beaucoup d'autres moyens quand même de percevoir les choses.
Ben, on n'avait pas du tout d'autres moyens en fait. Effectivement, la lunette astronomique, on commence à regarder dedans vers 1610 à peu près. Et on commence à s'apercevoir que la Lune a des taches particulières. C'est-à-dire qu'avant, sans la lunette astronomique, on voyait des taches sur la Lune. On les voit, il suffit de regarder à l'œil nu, c'est assez facile à observer. Mais c'est des taches qui ne bougent pas. Donc on pensait que c'était peut-être des mers, on n'était pas sûr du tout. Et avec la lunette, on observe des nouvelles taches qu'on n'avait jamais vues auparavant. En fait, il s'agit des cratères, mais à l'époque, on ne sait pas trop, puisque ça ressemble à des ombres, c'est pas très sophistiqué encore la lunette. Donc on se dit que c'est peut-être des montagnes et des vallées, et du coup un paysage qu'on commence à imaginer un peu comme la Terre.
Et alors du coup, John Wilkins, hein, bon, qui est tout jeune quand il écrit ce livre-là que vous avez étudié, en même temps il faut dire qu'il va devenir quand même très important dans la société anglaise, puisqu'il sera le fondateur de la Royal Society, hein, l'équivalent de l'Académie des sciences, c'est ça ?
C'est ça, c'est un des fondateurs, oui.
Bon. Donc ce John Wilkins se base donc sur quoi, lui, pour étayer ses propos ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit concrètement, il y a des habitants sur la Lune ? Ou comment il formule ça ? Parce que vous l'avez dit au tout début de notre entretien, Claire Bouir, c'est un homme de science, mais c'est un homme aussi de foi, hein, c'est un ecclésiastique. Et donc, il arrive aussi au cœur de polémiques sur l'interprétation de la Bible.
Oui, alors il a plusieurs arguments, en fait. Il a des arguments bibliques. Et des arguments scientifiques, mais en fait à l'époque les deux sont étroitement liés, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, donc son ouvrage il est à la fois scientifique et religieux, les deux sont tout le temps mêlés, d'ailleurs il a écrit pas mal d'ouvrages religieux, strictement religieux, et d'autres ouvrages scientifiques. Donc en fait quand il arrive dans ce débat, il est très embêté parce que dans la Bible, on ne parle que des êtres qui ont été créés sur Terre, donc Dieu aurait créé les hommes, et tous les êtres vivants sur Terre serviraient l'homme. Donc la question qu'on se pose à l'époque, c'est quel serait l'intérêt d'être vivant ailleurs que sur Terre, puisqu'on ne peut pas y avoir accès, donc il ne nous servira à rien. Donc en fait, c'est une question de finalisme. Est-ce qu'il pourrait servir à autre chose, ou est-ce qu'on n'est pas le but de la création de Dieu ? Donc ça, c'est une question très très débattue à l'époque. Et Wilkins, il affirme rien en fait. Il dit pas il y a des êtres vivants sur la Lune, j'en suis sûre, puisqu'il n'y a aucune preuve possible. Lui, il fait des hypothèses et il développe des arguments de probabilité. Donc il dit voilà, avec la lunette, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des montagnes, des vallées sur la Lune. Et s'il y a ça, alors c'est possible qu'il y ait des habitants, parce que Dieu n'aurait pas pu créer une Lune avec des montagnes et des vallées si c'était pour rien en faire. Donc c'est vraiment des questions de finalisme.
Il se base aussi sur la position de la Lune par rapport au Soleil, en se disant que c'est une position à peu près équivalente par rapport à celle que la Terre occupe hein, vis-à-vis du Soleil, c'est ça ?
Oui, alors après dans ses arguments un petit peu plus scientifiques, on va dire, il croit observer de l'atmosphère autour de la Lune. Il y a un espèce d'halo de lumière autour. Il pense donc que ce serait peut-être de l'atmosphère, donc comme sur Terre. Il explique que s'il y a de l'atmosphère et par rapport à la position au Soleil, il pourrait y avoir de l'eau. Et s'il y a de l'eau, de l'air à respirer, des montagnes, des vallées, alors du coup, il pourrait peut-être y avoir la vie.
Et donc la Lune devient pour lui comme un nouveau monde, le nouveau monde découvert par Christophe Colomb. Mais alors, comment se rendre sur la Lune ? Est-ce qu'il se pose cette question-là ?
Oui, il s'intéresse à ça. Et c'est assez compliqué à l'époque. Donc il essaye d'imaginer des machines pour pouvoir se rendre sur la Lune. Et pas forcément d'ailleurs que des machines. Il imagine aussi que des grands oiseaux, si on les attachait entre eux, pourraient nous permettre de nous élever au-dessus de la Terre et que progressivement, on pourrait comme ça se rendre sur la Lune. Donc c'est assez compliqué à l'époque de prévoir ça puisque déjà la distance Terre-Lune, on n'a pas des notions très très précises. Donc lui, il pense que la Lune serait éloignée de la Terre de 10-52 demi-diamètres terrestres en fait. Et il calcule, il se dit, si on va à une vitesse de 66 km/h, en 6 mois, on pourrait atteindre la Lune, en fait. Donc du coup, il se demande comment on pourrait faire avec une machine pour pouvoir survivre pendant tout le voyage. Est-ce qu'on pourrait apporter des aliments? Comment on pourrait dormir? Qui c'est qui s'occuperait de la machine pendant qu'on dort, etc. Donc il se pose pas mal de questions là-dessus. Et il y a d'autres scientifiques qui viennent l'aider dans ses recherches, parce que là, par contre, il est très critiqué. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une aberration, que c'est impossible et qu'on n'arrivera jamais à aller sur la Lune.
Alors justement, comment est-il accueilli à la fois dans la communauté des scientifiques, dans la communauté des hommes de foi et puis dans la société anglaise plus largement?
Alors c'est un homme qui est très ouvert, qui discute beaucoup avec les savants de son époque, puisqu'il fait partie de la Royal Society, donc il a énormément de contacts. Il est très apprécié dans sa société. Après, il a évidemment quelques disputes avec d'autres savants et surtout d'autres religieux qui ne partagent pas du tout son point de vue. Donc les débats sont essentiellement religieux, oui.
Alors qu'est-ce que ça dit justement, à la fois le livre qu'il écrit alors qu'il a 24 ans, donc en 1638, hein, ce livre intitulé « La découverte d'un monde sur la Lune ». On imagine qu'il poursuit cette idée jusqu'à la fin de ses jours?
Alors, il en reparle très peu, en fait. Il en parle en 1638, puis en 1640, quand il refait une nouvelle édition. Et après, il se consacre à d'autres sujets. En fait, il a écrit tellement de choses différentes que l'astronomie, c'est plutôt, en fait, au début de sa vie. Et après, il a parlé essentiellement de la religion naturelle, de la beauté de la Providence, d'un langage philosophique universel, un langage qu'on pourrait tous avoir, qu'on pourrait tous parler la même langue, en fait. Il a parlé de la cryptologie aussi. Donc, il a fait énormément de travaux différents.
Claire Bouir, est-ce que les idées développées par John Wilkins, à savoir qu'il y aurait des habitants sur la Lune et que donc ce serait une planète habitable, est-ce que ça a été repris par d'autres?
Alors oui, il y a plusieurs auteurs qui ont repris ces idées et qui les ont même étendues à d'autres planètes que la Lune. Donc il y a Robert Whitty notamment, Charles Morton, John Ray, donc plusieurs auteurs anglais et des auteurs allemands et français également. Et pour prendre un exemple, Charles Morton, qui lui est né un petit peu plus tard en 1627, lui il imagine que certains êtres vivants sur Terre, donc des oiseaux, pourraient migrer lors de la mauvaise saison jusqu'à la Lune. Donc ça, à l'époque, c'était une idée recevable, puisque les oiseaux disparaissaient pendant une mauvaise saison et on ne savait pas vraiment où ils allaient. Donc lui, il a supposé que les oiseaux pourraient voler jusqu'à la Lune, passer la mauvaise saison là-bas et rentrer chez nous ensuite.
Et alors du coup, concrètement, Claire Bouir, par rapport à votre thèse qui portait, je le rappelle, sur le vivant dans le discours sur la pluralité des mondes, de quelle façon est-ce que ce document-là, le livre de John Wilkins, a été vraiment d'une importance capitale pour vous?
Alors au début, je ne me concentrais pas trop sur cet ouvrage-là. Je parlais de la pluralité des mondes en général au XVIIe siècle. Et progressivement, je me suis rendu compte que l'astronomie avait une place très importante, mais finalement les sciences du vivant aussi, et que ça avait été très peu étudié. Et donc un des auteurs qui avait été peu étudié là-dessus, c'était John Wilkins. Et lui, il traite beaucoup des sciences du vivant, puisqu'il se contente pas juste de dire que la Lune pourrait être comme la Terre. Il essaye de faire des hypothèses sur les êtres vivants, comment ils pourraient être, comment on pourrait aller jusqu'à la Lune, comment on pourrait respirer entre la Terre et la Lune, se nourrir, dormir, etc. Donc il se pose des questions vraiment essentielles que personne n'a vraiment étudiées jusqu'à présent, en tout cas du point de vue de l'histoire des sciences.
Bon, et en tout cas, vous faites revivre justement à la fois John Wilkins et surtout son livre que vous avez étudié. Et je rappelle pour nos auditeurs qui voudraient poursuivre plus avant dans cette histoire, l'article que vous signez en page Histoire des sciences dans le magazine Pour la science de ce mois. Donc cet article intitulé « John Wilkins, l'avocat du peuple de la Lune ». Merci à vous, hein, Claire Bouir.
Merci à vous aussi.
Merci. Informations et liens sont donc à retrouver sur franceculture.fr, la page de la Marche des sciences. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et c'est la fin de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Catherine Donnet pour la préparation de l'émission, Anaï Morales pour les archives, Caroline Chausset, que je n'oublie pas, de la documentation sonore de Radio France, à la réalisation Alexandra Malka et à la technique Emmanuel Morse-Duncan. La semaine prochaine, dans une semaine thématique commune à toutes les émissions Sciences de France Culture sur la nouvelle révolution génétique, nous entrerons dans l'histoire de la génétique pour le meilleur et pour le pire avec en filigrane, vous le verrez, l'ombre de l'eugénisme. Nous serons avec les historiens Laurence Perbal et Michel Morange. Et puis demain, rendez-vous avec Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et dans un instant, à 17h, place à Hervé Gardette.